Mesdames, Messieurs, bonjour. Arline Gojal, Karine Dachary et moi-même sommes heureux de vous retrouver ce matin. Les nouvelles sont bonnes pour INEA, elles sont même très bonnes. Donc on va vous l'exposer cette matinée. Je vais juste commencer par quelque chose qui a retenu l'attention de tout le monde. Ça a été fulgurant. Jamais on n'avait vu des taux d'intérêt monter aussi vite dans un temps aussi court. L'Euribor 3 mois a pris plus de 450 points de base en moins de 24 mois. L'OAT, qui est un taux directeur pour nous dans l'immobilier d'entreprise, a pris plus de 200 points de base dans le même laps de temps. Ça vient secouer en fait tout le monde et c'est à l'évidence une nouvelle donne qui s'impose pour les marchés immobiliers. L'exposé qu'on va avoir ce matin, c'est tout d'abord de vous présenter le marché, les régions, et de vous faire part de ce qui a retenu notre attention et ce qui guide en quelque sorte notre stratégie. Puis c'est de vous mettre en évidence les qualités du patrimoine qu'on a constitué au fil des années. C'est un patrimoine qui est adapté. Et comme vous le démontreront Arline et Karine, c'est un patrimoine qui répond bien en fait aux besoins et à la demande actuelle, et c'est clé. Enfin, Karine vous exposera les résultats de la société en 2023 et je terminerai donc par les perspectives. Quand on regarde les régions, et on a essayé de les regarder avec un prisme qui est un peu différencié des rapports que vous pouvez avoir en permanence, en fait, de la part des grands organismes que sont BNP Paribas, Real Estate ou CBRE ou JLL. Je vais faire la pub pour tout le monde, mais bon, voilà. On a regardé tout d'abord le marché de l'immobilier d'entreprise en région. Ça veut dire quoi? C'est qu'on a pris toutes les typologies d'actifs, hors bien évidemment résidentiel, logement, donc tout ce qui est tertiaire, et on a regardé en volume d'investissement comment ça avait évolué dans le temps. Et en fait, on se rend compte que sur la partie verte, qui est la partie région de l'immobilier d'entreprise, c'est un marché qui a cru au fil du temps, c'est-à-dire au cours des 10 dernières années. C'est un marché qui représente aujourd'hui la quote-part des régions dans l'immobilier d'entreprise en France, c'est 43%. Donc c'est tout de même proche de la moitié. Et on voit que ce marché-là, en 2023, au regard de la moyenne décennale, il a décru, mais il a décru de 29%, mais c'est deux fois moins fort que la décroissance de l'immobilier d'entreprise en région parisienne, Paris compris. Quand on regarde ce marché de l'immobilier d'entreprise en région, le volume qui a été investi l'année dernière, c'est 6,2 milliards d'euros. On se rend compte que ça se répartit en fait assez bien par typologie d'actifs. On pourrait quasiment diviser par 5, c'est 6,2 milliards d'euros. En ce qui concerne INEA, je soulignerai simplement que INEA est actif sur les bureaux et l'activité. Donc INEA est actif sur à peu près ce qui représente 40% de ce marché. Quand on regarde les volumes d'investissement qui ont été faits en bureaux et en locaux d'activité dans les régions, il y a eu à peu près en 2023 1,7 milliard qui ont été investis. C'est quasiment un tiers de toute l'activité bureau en France. Et en ce qui concerne les locaux d'activité, c'est encore plus puisque c'est 600 millions, donc un peu plus de la moitié des 1,2 milliard qui ont été investis. De ce point de vue-là, ce marché qui est diversifié, comme je viens de vous le mettre en évidence, il a aussi une autre qualité qui est sa granularité. La taille des transactions s'est adaptée, on va dire, à l'humeur des marchés. Et vous voyez que les transactions moyennes en matière de bureaux font 10 millions d'euros contre pratiquement 15 l'année précédente. Et en ce qui concerne les locaux d'activité, vous avez 80% des transactions en locaux d'activité qui portent sur des montants à moins de 10 millions. Si on se déplace de la partie investissement vers la partie, ce qu'on appelle dans notre jargon, demande placée, c'est-à-dire le nombre de mètres carrés qui ont été commercialisés dans l'année, il y a eu 1,7 million de mètres carrés qui ont été commercialisés en 2023. Là, on se rapproche vraiment des 50% puisque c'est 46% de tout ce qui a été commercialisé en matière de bureaux en France. Et là encore, on constate que Au regard de la moyenne décennale, ça a légèrement cru, donc on est stable. Et au regard de juste l'évolution, en fait, 2022-2023, la baisse qu'on enregistre à ce niveau-là, elle est relativement faible au regard de ce que vous venez de voir au niveau de la baisse des investissements, puisque ça ne baisse que 13%. Et là encore, vous avez au niveau de la demande la granularité en fait de ce marché qui joue, puisque vous avez 85% des transactions qui portent sur des surfaces de moins de 5000 m². Je suis en matière de bureaux. Et on a en date d'aujourd'hui des loyers médians dans le neuf qui s'échelonnent entre 160 et 200 euros du mètre carré. Donc quand on parle de bureaux parisiens qui sont en train de basculer sur des loyers de plus de 1000 euros du mètre carré, vous mesurez l'attractivité pour les grands groupes français comme étrangers de ce niveau de loyer. 44% des surfaces qui sont louées en bureaux en région sont louées dans le neuf. Vous avez une petite carte de la France qui vous donne en quelque sorte l'illustration de où cette demande placée, où ces mètres carrés commercialisés le sont. En fait, il y a deux grands arcs qui sont en train de se dessiner et qui se dessinent depuis des années, mais qui là captent tout de même plus de 60% de cette demande placée. C'est l'arc atlantique, vous le voyez, hein, on part, on pourrait presque quasiment partir de Lille, donc on va être moins agressif, mais on va partir de Rouen et on va jusqu'à Toulouse. Et on vous a mis en évidence la croissance qu'il y a eu de nombre de mètres carrés commercialisés par ville. De l'autre côté, vous avez un axe méditerranéen qui capte beaucoup, hein, de Montpellier jusqu'à Nice. Marseille a été légèrement en retrait. Les trois villes qui sont plus en retrait cette année, de manière inhabituelle, si j'ose dire, c'est Grenoble, Lyon et Lille. Sur ce marché locatif des bureaux en région, on a une constance maintenant depuis des années qui atteste bien en quelque sorte de leur santé, c'est qu'on a un taux de vacance qui ne cesse d'être tiré vers le bas. On vous l'a mis en évidence parce que on a tout de même des villes qui, comme Rennes, Nantes ou encore Nice, sont des villes qui avoisinent des taux de vacance de l'ordre de 3%. On a souvent en tête le taux de vacance à nouveau Paris intramuros, 3%, c'est extrêmement compétitif. Et pour la moyenne de l'ensemble des autres villes, on est à 4,6%. Si on se rapproche globalement du taux moyen d'Île-de-France, Paris intramuros compris, c'est quasiment le double puisqu'on est, on affleure les 8%. Alors, qu'est-ce qui nous frappe aujourd'hui dans ce marché-là? Vous allez vite le comprendre. C'est en fait l'évolution des VEFA. On a été les spécialistes, si j'ose dire, de l'acquisition d'immeubles en VEFA en blanc, hein, puisqu'on poussait en quelque sorte le curseur jusqu'au fait de prendre en risque au-delà des garanties locatives les immeubles qu'on était en train d'acquérir. On a de facto, en date d'aujourd'hui, un marché des VEFA qui est progressivement à l'arrêt. C'est-à-dire que les VEFA en blanc, il n'y en a quasiment plus parce que les promoteurs ont du mal à les produire. Et les VEFA loués commencent à être extrêmement également réduites. Ça veut dire que globalement, vous avez une offre d'immeubles neufs qui est en train de se tarir. Et par rapport à cela, on a mis en comparaison sur le petit graphique de droite ce qu'était cette offre, donc encore dans notre jargon, c'est-à-dire immédiate, qui arrive tout de suite sur l'année 2023, donc qui est en train d'être produite et qui est en train d'être en date d'aujourd'hui commercialisée. Je parle pour le marché, hein, dans sa globalité. Et puis, ce qu'elle allait devenir à plus d'un an. Et globalement, on a rapproché ça de la demande locative sur du neuf, qui existait donc depuis les 5 dernières années. On en a pris la moyenne. Et là, globalement, on a une évidence, c'est-à-dire qu'avec une demande locative neuve qui porte un peu plus de 700 000 m², vous vous rendez compte qu'il n'y a pas assez d'offres pour satisfaire cette demande. On est en train d'aller vers un marché dans lequel il va y avoir une pénurie de l'offre neuve. On peut l'illustrer différemment quand vous regardez l'ensemble des villes et que vous regardez par rapport à ce caractère sous-offreur, comment elles peuvent se situer. Vous voyez qu'il n'y a plus du tout de sur-offre peut-être la seule exception, peut-être Grenoble, comme c'est vous est mis en évidence, mais le fait marquant, c'est que la plupart des grandes métropoles régionales sont en train de basculer et devenir des villes dans lesquelles, en fait, on manque d'offres neuves. Si on passe sur le marché des locaux d'activité et qu'on a l'approche qui est à peu près identique et qu'on commence par les investissements, il faut voir en date d'aujourd'hui que les régions représentent aujourd'hui plus de la moitié des investissements qui sont faits en locaux d'activité, plus de 600 millions. Et quand vous regardez à nouveau comment ça a pu évoluer sur 2022-2023, vous avez encore ici le même phénomène de résilience qui s'affirme, puisque les volumes d'investissement sur les régions n'ont régressé que de 32%. En ce qui concerne la demande locative, c'est-à-dire le nombre de mètres carrés qui ont été loués, dans les régions, il y a eu 2,2 millions de mètres carrés qui ont été loués. Et là encore, vous avez ce phénomène à la fois de résilience, on va varier dans le vocabulaire de robustesse qui s'affirme, puisque cette demande, elle est extrêmement stable. Par rapport à la moyenne à 5 ans, elle ne régresse que de 5%. Et par rapport à sa composante neuve, elle est en progression. Cette demande placée en progression accompagne l'offre qui, elle, également progresse. Et on a sur ces marchés-là des revalorisations de loyers qui sont comprises en 2023 entre 5 et 10%. Alors, on s'est attaché ensuite à un phénomène sur lequel on a été actif, puisque le parc, c'est-à-dire les parcs d'activités que possède Foncière Énéa sont à la fois en région parisienne et puis dans les régions. Et sur les parcs d'activités aujourd'hui, il faut savoir qu'en région parisienne, ils captent quasiment 43% de la demande locative. Pour avoir une idée de ce que ça représente, vous avez aujourd'hui en région parisienne une centaine de parcs. C'est plus de 700 000 m2, c'est quasiment 800 000 m2. Et surtout en chantier, vous avez 430 000 parcs qui risquent d'arriver et en PC obtenu supplémentaire, 300 000. Donc vous avez globalement les parcs franciliens qui peuvent en quelque sorte doubler dans les 3-4 ans qui viennent. Ça répond vraiment à une demande. Ça s'appelle la logistique du dernier kilomètre. On est déjà largement implanté en région parisienne et on considère que globalement demain, cette nature même d'actifs se déclinera dans les régions. Et c'est pour ça qu'on est en train de prendre position de manière déterminée sur un certain nombre de métropoles. Pour conclure, 2023 pour nous confirme en fait le statut des régions. Si on essaye de l'illustrer par rapport aux propos que je viens de vous tenir, on a des régions qui sont diversifiées et granulaires et qui ont bien résisté en termes d'investissement en 2023. Cette résilience des marchés régionaux, elle est tangible, comme je viens de vous le montrer également, au niveau de la demande placée. Donc c'est des marchés qui, malgré tout de même la période que l'on traverse, ont été extrêmement actifs au niveau de tout ce qui est commercialisation. En matière de bureaux, ce qui nous frappe, et vous l'avez compris, c'est une concentration de la demande placée sur un certain nombre de métropoles et une pénurie de l'offre neuve. En matière de locaux d'activité, l'importance de la demande placée, on est quasiment, vous le voyez, avec ces 67% à 2/3 de la demande placée. On pense qu'il y aura un appel d'air pour le développement des parcs d'activité en région. Alors, je vais vous le dire là, et puis j'en aurai conclu sur cette première partie de manière sans doute un peu grossière, mais qui va, j'espère, capter votre attention. En immobilier d'entreprise, aujourd'hui en France, il y a 1 € sur 2 qui s'investit en région. Si vous êtes en bureau, vous avez 1 € sur 3 qui s'investit en région. Vous avez 1 m² sur 2 qui se loue en région. Et vous avez 1 m² sur 2 qui se loue en région dans le neuf. Si on a la même approche en matière de locaux d'activité, vous avez 1 € sur 2 qui s'investit en région. Vous avez 2 m² sur 3 qui se loue en région. Et vous avez 1 m² sur 3 qui se loue en région dans le neuf. Pour nous, la dynamique et l'adaptabilité des régions en période de crise rend compte en fait du développement des territoires. Voilà pour cette première partie sur les régions. Donc je vais passer la parole à mes voisines de droite. Il faut juste appuyer.
C'est facile.
Oui.
Merci. Merci. Je crois qu'on va rentrer dans le vif du sujet qui est donc le patrimoine assez unique de Francienia, constitué depuis maintenant 15 ans. Et là, je vous donnerai quelques minutes, vous voyez défiler des noms et des adjectifs qui constituent le patrimoine et qui contribuent surtout à sa performance, dont vous allez juger tout à l'heure, et sa résilience. Je me suis dit, si j'avais à choisir trois mots là-dedans, qu'est-ce que je choisirais? Ben, je choisirais surtout le fait qu'on soit en région, le fait que notre parc est neuf et récent, et surtout qu'il répond aux besoins des utilisateurs. Aujourd'hui, le portefeuille s'élève à 1,3 milliard d'euros. Il est liquide et rentable. 80% du portefeuille est constitué de bureaux, 20% de parcs d'activité. Et quand on dit liquide, ça veut dire quoi? Liquide pour nous, c'est la taille unitaire des actifs qui peuvent donc être vendus à des particuliers, à des family office, à des institutionnels, et liquide et rentable sont nos deux objectifs depuis notre création, et nous n'en avons pas dévié de ce chemin depuis qu'on a été créé. Rentable pour nous, c'est, vous le voyez là, le rendement potentiel de 7,3%, mais en fait, nous avons rarement, exceptionnellement, jamais quitté la cible de 6%, en tout cas sur les trois dernières années. Vous avez là le taille unitaire de nos actifs qui est donné pour 5 700 m². Nous en avons quelques immeubles plus petits, plus grands. Voilà, c'est un moyenne. Et vous voyez en bas de la page la plus-value latente de 200 millions qui me fait conclure sur cette page-là que nous en avons sous le pied, car cette plus-value latente est sur des actifs qui ne sont pas encore rentrés en patrimoine et qui ne sont pas expertisés. Donc on peut espérer quelque chose un peu mieux sur ce plan-là. Tout le monde est green, tout le monde est greenwashed. Je pense qu'Enea est réellement plus green que green. Donc vous avez des certifications sur notre patrimoine BRIM, HQE, 88% du patrimoine bénéficie d'un label, 91% sont des labels à un niveau assez élevé, et en fait aujourd'hui, on voit bien que les grands comptes sont très intéressés par cette caractéristique, ce qui n'était pas le cas il y a 5 ans. Nous sommes sobres énergétiquement. Je vous laisse les chiffres pour vous dire qu'une consommation en baisse de 7% sur l'année mais inférieur à 32% à la moyenne française. 90% du patrimoine respecte déjà le seuil du décret tertiaire de 2030, ce qui veut dire que nous n'avons pas à prévoir des capex importantes pour se rendre à cette norme. Un faiblement émissif de carbone, vous avez les chiffres là, ce qui donne un niveau d'émission largement inférieur aux objectifs de la stratégie nationale bas carbone. Donc un patrimoine neuf et performant et qui est déjà aux normes. Alors, nous le disons ici assez souvent, et Philippe l'a dit tout à l'heure, que notre patrimoine répond aux enjeux locatifs et à la demande exprimée. Je pense que ce serait intéressant que vous voyez comment. Qu'est-ce que ça veut dire ? Surtout en ère post-Covid, où l'usage des bureaux se transforme peu à peu pour intégrer le télétravail, les flex-bureaux. Donc on va vous donner quelques critères qui définissent ce portefeuille. Donc d'abord et principalement, nous sommes dans les métropoles régionales qui portent la croissance française aujourd'hui et qui sont plébiscitées par les actifs. Les immeubles à taille humaine, on l'a dit tout à l'heure, la moyenne de nos actifs, c'est 5 700 m², mais au niveau de l'usage d'un immeuble, entre 3 000 et 5 000 m², vous pouvez côtoyer votre voisin, prendre l'ascenseur avec lui, le connaître, le saluer quand vous prenez votre voiture le soir. Je pense que c'est assez important. Les immeubles sont également bien placés par rapport aux transports en commun. Il y a des transports en commun en région. Ça s'est beaucoup développé. Beaucoup de villes ont fait des efforts importants. Nos immeubles sont extrêmement bien connectés par rapport à ces transports. Je donne un tout petit exemple là. Par exemple, à Montpellier, les transports en commun sont gratuits pour toute la ville. Nous avons aujourd'hui quelque chose assez nouveau, qui est un peu ce qu'on a dit tout à l'heure, post-Covid, l'adaptation des bureaux à l'utilisateur, qui est, on va appeler ça le confort d'utilisation. Nous avons donc des terrasses accessibles, des rooftops, des patios intérieurs, des aires de convivialité, des espaces verts, des parkings pour les vélos. Des locaux qui sont... Je crois que c'est un des points les plus importants de ce portefeuille, divisible et modulable, et qui répond donc à la demande actuelle. Qui peut le plus, peut le moins. Et justement, nous pouvons satisfaire des grandes demandes, mais qui sont un peu poussifs aujourd'hui. Et nos immeubles sont divisibles normalement à partir de 200-250 m². Et c'est une des raisons pour sa performance. Bien sûr, on l'a dit tout à l'heure, les loyers sont économiques en région, les charges sont maîtrisées dans nos immeubles. Et un point extrêmement important pour notre performance, c'est que nous avons un asset management extrêmement hands-on avec des collaborateurs qui sont sur le terrain. Ils ne sont pas à Paris derrière leurs écrans en train de donner des instructions, ils se déplacent, ils sont sur le terrain et je crois que ça fait une très grande différence. Là, je pense que vous l'avez vu peut-être en rentrant dans la salle. C'était un film que nous avons passé en boucle qui a été réalisé par une société qui s'appelle In-Situ et qui aménage des bureaux en bureaux opérés. C'est ce coup-ci pour Airbus. Cet immeuble que vous avez vu et l'immeuble Le Landing qui nous appartient, qui est à Toulouse, à quelques encablures de l'aéroport, vous pouvez y aller à pied. Alors là, c'est vraiment le summum de ce qu'on peut offrir. On a l'impression d'être dans un hôtel aussi beau qu'ici. Alors peut-être plus modestement, nous allons illustrer notre portefeuille par différents aspects qu'on vient de voir ensemble. Donc je vais vous laisser passer le visio. Merci. Merci bien. C'est beau, non? Alors, l'autre partie de notre portefeuille, les locaux d'activité. On va le passer, pardon. Les parcs d'activité viennent moderniser, mettre à jour tout un ensemble d'actifs en France qui sont assez obsolètes. Quand vous avez des locaux d'activité en bardage simple, vous crevez de chaleur en été, vous crevez de froid en hiver. Et ce sont des locaux assez techniques pour répondre à une demande très large, un spectre de locataires assez large. Donc, une hauteur de stockage qui varie entre 7 et 8 mètres, un pourcentage de bureaux de 20% ou pas, qui sont adaptables à la demande. Bien entendu, le plus important, c'est leur situation par rapport aux axes routiers. Comme Philippe vous a dit tout à l'heure, ces locaux proches des villes vont permettre à des camions de livrer dans ces locaux-là, d'éclater la marchandise ou ce qui va être fait dans ces locaux pour les livrer en ville. Vous avez d'ores et déjà pas mal de villes qui n'acceptent pas la livraison par des voitures polluantes et ça va être, je pense, des normes de plus en plus en place. Donc aujourd'hui, nous essayons d'être très très proches des villes, des axes routiers. Ces locaux sont donc adaptés à un spectre important qui vont du stockage, artisanat, notamment donc bien sûr le e-commerce et les showrooms. Très important pour les utilisateurs sont des sites clos et sécurisés, puisqu'ils stockent dedans. Et vous le savez, ces locaux sont pas tellement soumis aux problèmes du télétravail. On ne télétravaille assez rarement dans des locaux d'activité. Nous allons vous montrer avec un seul actif qui coche peut-être toutes les cases et qui est situé sur la sortie est de Lyon, porte de la Soie. Vous rentrez très très vite en centre de ville, j'espère qu'on va vous le démontrer. Il coche toutes les cases que j'indique là, oui, et il ajoute une petite case de plus qui est le stockage en étage. Avec le zéro artificialisation des sols aujourd'hui, vous allez avoir de plus en plus de structures en étage. Et là, nous avons un parc qui va vous offrir des locaux tout à fait comme vous voyez sur la photo là, mais également un stockage en partie en étage avec un accessibilité par monte charge. Donc on va peut-être vous montrer le petit visio sur Porte de la Soie. Je me rends compte que j'ai oublié de vous dire, et vous l'avez vu sur le film, qu'aujourd'hui, nous essayons d'avoir des parcs d'activité avec des toitures photovoltaïques. Ces locaux sont pour la plupart air-conditionnés. Tout ça, c'est une très, très grande différence par rapport à ces locaux que vous voyez tous quand vous prenez la voiture en France. Donc, je pense qu'il y a une réelle demande et on est très satisfait de nos investissements et leur taux de remplissage aujourd'hui. Nous allons passer à des choses. Juste avant, Oui, pardon. Merci. Merci. C'est un portefeuille... non, je voulais débuter ça pour vous rappeler qu'en région, il n'y a pas que les PMI et les PME. Donc, en fait, vous voyez sur cette graphe la qualité des locataires qui sont dans notre portefeuille. 70% de ces locataires ont des chiffres d'affaires supérieurs à 100 millions d'euros. Et je pense que ça, c'est quelque chose que pas forcément tout le monde sait. Le plus important, l'activité locative. En 2023, l'activité locative a été bonne. Nous avons signé 76 baux pour 73 422 m², un volume en hausse de 68% sur les 12 derniers mois, avec donc, si on décompose, des renouvellements sur notre portefeuille existant, assez importants, c'est très, très encourageant, de nouveaux baux en cas de départ de locataires sur le patrimoine existant, importante également, 41 baux. Je pense que ça démontre la résilience du patrimoine existant. Des baux sur des nouveaux immeubles rentrant en patrimoine, 22 et donc 35 000 m². La surface moyenne de ces baux, Philippe l'a démontré dans l'étude de marché tout à l'heure, la plupart des baux, 85%, sont en fait moins de 1000 m². Et là, effectivement, notre courbe, notre camembert n'est pas tout à fait idéal, puisque nous avons eu la chance, cette année, de réaliser quelques très grosses signatures qui fait en sorte que vous allez avoir des 33% de baux signés de plus de 5000 m². Sinon, la majorité, effectivement, sont entre 1000, 1500 m². C'est ça la répartition. Et cette répartition et cette prise à bail, et donc j'enfonce le clou encore, due à la modularité et à la divisibilité de ce patrimoine. Je crois que c'est vraiment le contributeur principal. Donc, cette adéquation à la demande actuelle avec une demande de grands immeubles qui se fait un petit peu plus rare ces temps-ci. Le taux de vacance aujourd'hui est de 10,70 parce qu'il est impacté par l'arrivée en portefeuille des derniers VFA acquis. Et donc, ça, leur commercialisation est parfois un peu poussive parce qu'il y a le manque de demandes plus importantes qui autrefois remplissaient un immeuble dès qu'il a livré. Nous en avons eu, je vous l'ai dit tout à l'heure, le landing fait 11 000 m² et il a été pré-commercialisé. Et nous avons un immeuble qui arrivera à Montpellier à la fin de l'année prochaine et qui également risque de trouver preneur d'ores et déjà. Donc ça existe. Ce n'est pas quelque chose qui a disparu de la circulation. Mais il pèse sur notre vide locatif aujourd'hui, car si on regarde en bas, la courbe en bas reflète le vide locatif de notre patrimoine en dehors de cet impact de VFA arrivé récemment. Et ce taux est en ligne donc avec les taux de vacances que vous avez vus sur les régions en général et qui, je pense, est un des ingrédients de considérer que les marchés de région sont extrêmement sains et ont une profondeur intéressante. Pardon ? C'est bon là ? Oui, mais j'allais arrêter. Ça va ?
Arline vous a décrit assez largement donc les qualités uniques de notre patrimoine, qui est composé d'actifs neufs, green, liquides de par leur taille et rentables, car loués à des locataires solides. Ce sont en partie ces qualités qui ont permis à Foncière Ignat de se retrouver dans une position unique dans le secteur des foncières à fin 2023, la position de constater le maintien de la valeur de son patrimoine. En effet, sur le secteur des SIC bureaux, les valeurs de patrimoine ont corrigé de l'ordre de 15% en moyenne cette année, alors que le patrimoine d'INEA enregistre, lui, une croissance de 3,4% de sa valeur en s'établissant à 1,266 milliards d'euros. La résilience chez INEA s'observe sur les deux typologies d'actifs qui composent son portefeuille. Les bureaux d'abord, qui à périmètre constant maintiennent parfaitement leur valeur. Sur la grande partie des actifs qui composent notre typologie bureau du patrimoine, l'indexation des loyers en fait a compensé le léger relèvement des taux appliqués par les experts. Au-delà, bien sûr, les experts ont pu sanctionner des actifs dont la commercialisation n'était pas encore totalement terminée, comme l'a indiqué Arline, mais ils ont aussi reconnu la création de valeur liée aux belles signatures réalisées cette année. D'ailleurs, la commercialisation des VFA acquises en blanc est le moteur de la création de valeur dans notre business model. Et ce moteur, donc, il a bien fonctionné en 2023 pour INEA. Les parts d'activité, eux, se sont appréciées de 3% cette année. On est là en phase avec la tendance de marché que Philippe vous a présentée en première partie. Et ça valide pour nous l'inflexion stratégique que l'on a opérée il y a 3-4 ans, post-Covid, en décidant d'accélérer le développement de Flexpark, notamment en région. Il y a, à notre sens, un autre facteur assez important qui explique la stabilité de la valeur de notre patrimoine cette année. C'est la prudence historique avec laquelle les experts évaluent notre patrimoine. Cette prudence, on l'a souvent évoquée. Cette année, on peut, je pense, la démontrer, notamment à la lecture de ce graphique qui vous présente l'évolution comparée de 3 taux sur la période 2010-2023. Le taux sans risque, donc l'OAT 10 ans, la courbe bleue, le taux prime Paris QCA, en beige, et le taux moyen d'expertise d'INEA, en vert. Alors vous voyez que sur la période 2010-2021, la courbe d'INEA et la courbe Paris QCA ont évolué sensiblement de la même façon. Mais le point de départ n'est pas du tout le même. Vous voyez qu'en 2010, c'est l'année de notre passage en juste valeur, le patrimoine d'INEA était expertisé à un taux proche de 8%. Donc bien sûr, il s'est comprimé ensuite dans le temps, reflétant les tendances de marché à l'œuvre. Mais à fin 2022, quand la prime de risque disparaissait quasiment sur le marché parisien à la faveur de la remontée de l'OAT, vous voyez que nous, on conservait une prime de risque de plus de 260 points de base avec le taux d'expertise que l'on avait. On comprend facilement pourquoi les experts ont dû mécaniquement corriger les valeurs franciliennes pour établir une prime de risque. Et pourquoi ils n'ont pas dû le faire de la même façon sur le portefeuille d'INEA. Alors, cette prime de risque historique, elle était compréhensible au départ, elle était même légitime. INEA est une foncière jeune, créée en 2006, qui s'est positionnée sur les bureaux neufs en région, qui était, il faut bien l'avouer, une niche à cette époque-là. Après, selon nous, ce matelas de sécurité, on peut l'appeler comme ça, aurait dû s'affiner un peu et s'amenuiser dans le temps à la faveur de l'essor des marchés régionaux, qui ne sont plus du tout un marché de niche, et au regard de la qualité du portefeuille constitué au fil des années. En effet, on peut encore interroger ce taux de 6-10 qui ressort donc, de la dernière campagne d'expertise, qui fait apparaître une prime de risque encore de plus de 350 points de base par rapport au taux sans risque, et qui correspond à une valeur expertisée de 2500 euros hors droit du mètre carré. Et si on fait le lien entre valeur d'expertise ANR et cours de bourse, puisque tout ça est un peu lié, et qu'on s'intéresse à la valeur d'entreprise, elle s'élève, elle, à peine 2000 euros du mètre carré, quand on considère le cours de bourse de fin d'année. Être valorisé à 2000 ou 2500 euros du mètre carré à fin 2023, quand on voit les coûts de construction aujourd'hui, ça nous paraît être une sous-valorisation. Il est impossible aujourd'hui de construire un immeuble neuf à 2000 ou 2500 euros du mètre carré en région ou ailleurs. Voilà. Donc, il y a selon nous un gisement de valeur qui n'est pas reflété dans les niveaux d'expertise d'INEA à fin 2023. Mais si on voit le verre à moitié plein, on peut se dire qu'on a encore un petit matelas de sécurité si jamais les valeurs devaient encore corriger en 2024. En tout cas, c'est notre conviction. Mais avant de se projeter sur 2024 et l'avenir, revenons au sujet du jour, les résultats de 2023. Ils sont bons, voire très bons, puisqu'on signe aujourd'hui, cette année, un exercice de qualité qui est marqué donc par la résilience de la valeur du patrimoine, que je viens de vous la présenter, mais également pour une forte croissance opérationnelle. On est aujourd'hui la seule SIC de bureau à remplir ces deux critères et à être capable de dégager un bénéfice en 2023. Si l'on descend le compte de résultats un peu ligne à ligne pour en comprendre sa construction, en commençant par le chiffre d'affaires, on constate donc une croissance de 15,5% des revenus locatifs bruts qui s'établissent à 67,5 millions d'euros. Là encore, les deux leviers de croissance habituels de Foncière Inea ont été à l'œuvre. 60% de cette croissance est liée en effet à l'entrée en exploitation de nouveaux actifs au cours des 12 derniers mois. 7 nouveaux actifs sont entrés en exploitation et ont été contributifs au chiffre d'affaires. Et on a 40% de cette hausse qui est liée à une bonne progression des loyers à périmètre constant. À périmètre constant, donc justement, les revenus locatifs nets ont progressé de près de 9%. Et là, il y a trois facteurs positifs qui se sont combinés. L'indexation des loyers à hauteur de 4,6%, l'amélioration du taux d'occupation à périmètre constant pour 2%, et, chose un peu nouvelle dans les régions, un effet positif de réversion observé lors des renouvellements des baux que l'on a signés cette année. Ce qui veut dire qu'on a conservé une bonne partie de l'indexation cumulée sur les baux qui sont arrivés à échéance cette année et qu'on a réussi à conclure des niveaux de loyer qui ont donc acté cette indexation. C'est un phénomène relativement récent sur notre portefeuille et qui correspond, à notre sens, à la tendance de marché observée sur les régions. Les frais de fonctionnement nets sont restés parfaitement stables sur l'exercice, à 7,6 millions. INEA publie pour la première fois le cost ratio EPRA. Donc c'est le rapport entre les frais de fonctionnement nets, donc ici présenté hors coût de la vacance, et les revenus locatifs bruts. INEA a un cost ratio très compétitif à 11,3% qui a diminué de 140 points de base cette année. Hausse des revenus locatifs nets de 18%, maintien des frais de fonctionnement, ça permet à l'EBE, l'excédent brut d'exploitation, d'être en forte croissance à plus 23%. Et heureusement, si je puis dire, puisqu'il a permis d'absorber une partie du choc subi sur les charges financières. Philippe l'a rappelé en introduction, le fait marquant de cette année, c'est la hausse brutale des taux depuis mi-2022, avec un Euribor qui a fini l'année à 4%. Évidemment, on a subi une partie de cette hausse, en grande partie donc sur la nouvelle dette qu'on a levée en 2023, puisqu'on finance notre pipeline par nos lignes de dette existantes, et dans une moindre mesure sur l'encours de dette à périmètre constant, car on a là, heureusement, nos instruments de couverture qui ont joué et qui ont permis d'éviter 6 millions de charges financières supplémentaires sur l'année et de maintenir donc un coût d'endettement moyen de 3,3% en 2023. La croissance de l'EBE donc a été supérieure à la croissance des charges financières nettes et a permis donc au résultat net récurrent de s'afficher en hausse de 4% à 25,4 millions d'euros. Par action, il est en léger retrait de 7% parce que les actions qui avaient été créées en juin 2022 lors de la dernière augmentation de capital sont désormais pleinement reconnues dans le nombre moyen pondéré qui sert de base au calcul de ce ratio par action. Le solde net de variation des justes valeurs des immeubles, donc il est largement composé de la variation de valeur du patrimoine. Je l'ai assez décrite tout à l'heure, cette valeur est stable, elle est même positive de 400 000 euros. Mais cette ligne contient donc là également juste l'impact des droits d'enregistrement subis sur les acquisitions d'immeubles achevés en 2023 et moins de 2 millions de capex courants engagés sur des immeubles, sur 5 immeubles du patrimoine. Donc une ligne qui termine à moins 4 millions. Au final, donc, on signe un exercice qui se clôt par un bénéfice de 21,5 millions d'euros, en légère décrue évidemment sur 12 mois, puisque l'année dernière nous avions constaté une forte création de valeur sur le patrimoine. Mais ce sont des résultats solides qui démontrent, à notre sens, toute la pertinence de notre business model et la résilience de notre patrimoine. On va faire un tour maintenant par la situation bilancielle et financière qui est particulièrement scrutée en cette fin d'année, et on le comprend vu le contexte de taux. D'abord pour constater que le total bilan atteint 1,2 milliard d'euros à fin 2023, avec 551 000 euros de dette, une dette qui est green à 81%, qui est sécurisée contre le risque de taux à 89% et qui offre une maturité de 4 ans à l'heure où je vous parle. Le coût d'endettement moyen, donc en 2023, était 3,5%. Il est quasiment à son maximum puisque aujourd'hui l'Euribor a dépassé les strikes des caps qu'on a en place. L'un des points importants au niveau financier de cette année 2023, c'est la confirmation de l'accès au crédit bancaire. INEA a signé 100 millions de dettes nouvelles en 2023, 50 millions sous la forme de l'extension d'un Sustainability Linked Loan signé en 2022 et 50 millions par la signature d'un SLL, là aussi, mais par sa filiale Flexpark. Et c'est important pour nous parce que c'est la première fois que Flexpark accède au crédit corporate remboursable in fine. Elle se finançait jusque-là en hypothécaire et c'est un signe supplémentaire pour nous de sa maturité. Cet accès au crédit, il se confirme début 2024 puisqu'on a signé un nouveau SLL de 100 millions d'euros la semaine dernière qui, lui, n'est pas destiné à financer le pipeline d'opérations mais à refinancer notre seule ligne obligataire dans notre endettement qui arrive à échéance en deux temps, pour moitié en février 2024 et pour sa seconde moitié en février 2025. Donc la première tranche a été tirée, la seconde sera activable au second semestre de l'année. Le deuxième point important, c'est de constater qu'INEA n'a pas d'échéance de remboursement de dette avant 2027. L'échéance de 2025 que vous avez, c'est donc la deuxième tranche de l'EuroPP, qui est déjà bouclée, si je puis dire. Et INEA dispose de lignes de crédit non tirées de 95 millions d'euros qui lui suffisent à faire face aux soldes restant à décaisser sur ses VFA en cours. Donc une situation de liquidité maîtrisée et pas de sujet de renouvellement de dette à court terme. Enfin, le dernier aspect important à regarder, c'est les covenants qui sont scrutés en cette fin d'année. À fin 2023, ils sont tous respectés. Malgré la hausse des charges financières, les ratios ICR et DSCR qui mesurent la couverture du service de la dette sont largement au-dessus des covenants bancaires applicables. Et si l'on se projette, on a réalisé un petit stress test pour se dire qu'il faudrait que le Euribor dépasse les 10% pour mettre à mal nos covenants bancaires sur ces deux ratios. Donc, heureusement pour nous tous, ce n'est pas la tendance attendue. Le LTV, lui, a progressé, évidemment, sur l'année. Il s'établit à près de 47%, droit compris. Il est en dessous de la guidance de 50% que l'on s'est fixé et surtout en dessous des covenants bancaires qui sont à 55%. Là, en termes de perspective, il faut faire plus attention, évidemment, vu le contexte de marché et de potentielle correction de valeur. Ce qui est sûr, c'est qu'on finance notre pipeline par de la dette. Donc, mécaniquement, la partie loan de ce ratio risque d'augmenter dans les prochains semestres. Et donc, à valeur de patrimoine stable, il se peut qu'INEA dépasse sa guidance d'un LTV inférieur à 50%, tout en restant, bien évidemment, bien en dessous de son covenant de 55%. C'est une situation avec laquelle on est à l'aise. D'abord, peut-être qu'il faut que je dise qu'on est à l'aise avec cette guidance et cette limite de 50% qui peut paraître relativement élevée dans le secteur, mais qui est à mettre au regard du rendement de nos actifs. Le rendement potentiel de notre portefeuille, c'est 7,3%, ce qui permet un peu plus de largesse sur l'endettement. Ensuite, on est à l'aise parce qu'on a plusieurs leviers identifiés si jamais il fallait piloter ce LTV. On a une capacité d'arbitrage qui est intacte. Arline vous a démontré la liquidité de nos actifs, notamment de par leur taille moyenne. On trouve des acquéreurs encore dans nos marchés, même si les SCPI ont déserté un peu cette année. 20 millions de ventes, c'est un point de LTV, pour vous donner un ordre d'idée. On a, on l'espère, une création de valeur attendue sur la commercialisation de nos VFA, qui peuvent faire augmenter la valeur du patrimoine. Et puis, on peut, s'il le fallait, réaliser des augmentations de capital d'un montant raisonnable pour piloter ce LTV. Là encore, juste pour info, 10 millions de fonds propres levés, c'est un point de LTV. Voilà, donc on maintient évidemment notre guidance sur le long terme et on saura gérer une potentielle période transitoire si jamais on devait la dépasser dans les semestres qui viennent. Je finirai la présentation de ces résultats 2023 par un passage par les ANR, les actifs nets réévalués. Comme la valeur du patrimoine est restée stable, les ANR se sont très bien tenus eux aussi. Ils évoluent entre -1 et -3% selon l'ANR et PRA considéré. Et on a donc un ANR NTA qui se fixe à 53,7 euros par action, donc en retrait de 2,5%, Là encore, comparé au secteur, évidemment, c'est une performance, puisque le secteur a décoté, lui, de l'ordre de 20%. Voilà, je vais passer la parole à Philippe pour qu'il se projette, lui, vers l'avenir.
On va se projeter vers l'avenir. Donc, dans un premier temps, on va être cohérent par rapport à tout ce qu'on vous a dit. On est aujourd'hui face à un paradigme immobilier qui est complètement nouveau. À nouveau, quelques mots pour l'illustrer. Certains peuvent paraître angoissants, mais voilà, c'est la réalité dans laquelle on est et par rapport à laquelle il faut qu'on acte ce que l'on veut faire dans le futur. On a, au cours des deux dernières années, eu une surperformance boursière au regard de l'EPRA. Vous le voyez au travers de ce petit graphique. On a en plus, par rapport à ça, eu une progression de notre actif net réévalué par action qui a été, au cours de ces deux dernières années, de 12%, alors qu'on réalisait une augmentation de capital qui faisait que le nombre de titres de la foncière augmentait de 28%. C'est important de rendre compte de la création de valeur qu'on a réussi à acter au cours de ces deux dernières années, alors que le marché, on va dire, était plutôt chahuté. Malgré cela, il y a un constat qui est clair, c'est que alors qu'on contenait notre décote aux alentours de 15 à 20% au cours des années précédentes, on a aujourd'hui une décote qui est de l'ordre de 30%. Alors, tout le monde nous dira qu'on a une décote qui est relativement faible, que si on regarde certains de nos très grands concurrents, en moyenne, les décotes sont à 40% et que certains montent jusqu'à 60%. Chacun son fardeau. En ce qui nous concerne, cette décote-là, il faut qu'on l'acte et qu'il faut qu'on l'acte dans la stratégie qui peut être la nôtre au cours des semestres qui vont suivre. Le premier constat, c'est que de renforcer nos fonds propres avec une telle décote, pour nos actionnaires, et nous en faisons partie, c'est destructeur de valeur. Le deuxième constat, c'est que de conserver l'objectif qui était le nôtre d'atteindre à fin 2026 un patrimoine de 2 milliards d'euros, ça n'a plus de sens en date d'aujourd'hui. Je vais vous l'illustrer différemment. On a un patrimoine qui fait 1,3 milliard. Vouloir produire 700 millions dans le secteur d'activité qui est le nôtre, c'est de recourir pour la production de ces 700 millions au bas mot à 300 millions d'augmentation de capital. Si on augmente de 300 millions d'euros nos fonds propres, c'est des augmentations de capital annuelles de 100 millions d'euros. Dans les conditions actuelles, et ce n'est pas un déni de réalité que de le reconnaître, ça n'a pas de sens. Donc à partir de là, qu'est-ce que l'on souhaite faire? On souhaite et on pense qu'on peut être à la fois agile et pragmatique. Et on a trois axes qu'on a définis. Le premier, Arline va vous en reparler, c'est que l'on a une croissance embarquée qui est réelle. Et on pense qu'on a non seulement la capacité, à l'évidence, de commercialiser la totalité du pipeline, mais en plus qu'on a la capacité de la commercialiser dans des conditions qui sont intéressantes. Pourquoi ? Parce que tout à l'heure, je vous ai mis en évidence qu'on a une raréfaction de l'offre neuve et que là, on a des actifs neufs qui vont être mis, en quelque sorte, à disposition de locataires. Et puis en plus, comme vous le soulignez, Karine, il y a une évolution attendue des loyers qui est une évolution, on va dire, positive. Donc, un, optimiser cette croissance embarquée. Deux, être opportuniste. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous ? C'est que on peut investir en alliant prudence et conviction. Ça veut dire que l'on peut à la fois réinvestir, désinvestir, arbitrer, déleverager si nécessaire, extérioriser de la plus-value. On a un portefeuille, comme on a essayé de vous le dire très clairement, qui est porteur de plus-value latente. Ces plus-values latentes, comme l'a souligné Arline, peuvent être rehaussées au travers du pipeline qui va en quelque sorte être commercialisé. Et donc on a de la matière là à externaliser en quelque sorte de la valeur que ne nous reconnaît pas, faut être clair, en date d'aujourd'hui, notre cours de bourse. Dernier point, Et c'est une constante, et c'est l'ADN de la société, c'est de maximiser la valeur nette, verte, pardon, du patrimoine. Les thèmes, en quelque sorte, que sont le voltaïque, les déchets, donc l'économie circulaire ou la biodiversité, sont des thèmes faiblement capitalistiques. Et on a la capacité, en date d'aujourd'hui, d'arriver à déployer des centrales voltaïques sur les toits de nos immeubles pour les rendre encore plus efficients. On est bien avancé en ce qui concerne la réduction des déchets et on va s'attaquer donc à tout ce qui est biodiversité. Donc, au travers de ces trois axes-là, notre sentiment, c'est qu'on sera à même de continuer à créer de la valeur pour les actionnaires. Si on commence simplement par la croissance embarquée.
On a un pipeline de 134 millions d'actifs nouveaux qui vont venir au fil des années à venir, jusqu'en 25-26, avec 8,2 millions de loyers supplémentaires et une création de valeur, comme Philippe vous l'a dit, sur ces acquisitions qui ne sont pas encore expertisées, donc qui sont données pour leur valeur d'acquisition. C'est un mélange de locaux d'activité et de bureaux. Bureaux en, je sais pas quelle couleur c'est, vert pomme, je sais pas qu'est-ce que c'est comme couleur, et l'autre en bleu. Chalifère est un parc d'activités qui est en dehors du périmètre de Disneyland à Paris et qui, la livraison vient d'être faite pour deux immeubles dont le premier est d'ores et déjà, ah oui, je voulais rester, ah oui, d'accord, très bien.
Non, parce que vous voulez les descendre comment?
Bah, là, vous, attendez. Voilà. Oui, bon, si vous voulez, d'accord. OK. Chalifère, donc, 15 000 mètres carrés. Donc, le premier immeuble est loué à travers un bail de 6 ans. Et je crois qu'on a d'ores et déjà une deuxième demande portant sur la deuxième partie de la première phase. Il va être phasé, ce parc, parce qu'il est assez important. Artistation, nous donne beaucoup de satisfaction. C'est un parc juste à la sortie de Toulouse, avec une adresse toulousaine d'ailleurs, sur l'axe nord. C'est un pénétrant pour rentrer dans la ville de Toulouse. Et donc, tout ce que nous vous avons décrit tout à l'heure sur ce dernier kilomètre et l'intérêt d'être proche des villes et proche des circulations routières et dans ce parc, dont on a, je crois, commencé les premières négociations pour une livraison qui va débuter en juillet de cette année. Vous voyez là du photovoltaïque avec les petits panneaux sur ces ensembles et des labels. Ça, c'est tout à fait nouveau pour ces parcs. Alors, comment est-ce que je trouve le suite là ? Oléa est à Mérignac. C'est un parc d'activité qui fait 6000 mètres carrés. Je crois qu'on commence là également les premières négociations sur ce parc. Là aussi, vous voyez, photovoltaïque et label, espace vert, biodiversité. Celui qui sera livré plus tard, c'est un parc qui est à Trappes, qui fait 9000 mètres carrés et qui sera livré, je pense, en fin 2025. Est-ce qu'on n'a pas vu les immeubles de bureaux ? Voilà. Oui. Cœur de Garonne est un petit ensemble de bureaux à Euratlantique. Vous pourrez aller à la gare à pied. En fait, juste pour vous donner le détail, cet ensemble offre des possibilités de location pour de plus petites surfaces. Autour de la gare d'Euratlantique, vous avez de très grands plateaux, de grands immeubles qui correspondent à une certaine demande, mais comme je pense vous l'avoir assez dit, il n'y a plus tellement de grosses demandes aujourd'hui. Donc cet ensemble correspond à des surfaces beaucoup plus modestes, 300 mètres carrés, et je pense que ce sera quelque chose qui marchera très bien. La livraison va arriver au mois de septembre. Pour Arco, c'est également un immeuble de bureau qui est à Mérignac, 3200 mètres carrés de la première phase. Et là, c'était assez intéressant parce que ça illustre ce que je vous ai dit tout à l'heure. Le premier utilisateur dans cet immeuble était prêt à essayer de trouver des locaux de seconde main qu'il aurait pu négocier à un prix extrêmement intéressant. Mais son actionnaire lui a dit qu'il exigeait qu'il soit dans un immeuble qui répond à son image de marque et tout ce qu'il préconisait comme activité. Et donc, c'est Arco qui a été choisi pour un loyer bien plus élevé que des immeubles en seconde main à cause de ses prestations environnementales, photovoltaïques et WildScore, qui est un branchement informatique. À travers ces deux immeubles, un à droite et un à gauche, qui sont dans le secteur où nous avons déjà le grand ensemble en structure bois massif qui s'appelle l'Ensoleillé. C'est le même secteur. Nous sommes sur la voie autoroute. Il y a une visibilité autoroutière. Et là, nous avons, vous voyez déjà, les terrasses pour l'immeuble de bureau à côté. Donc ça, c'est un ensemble assez classique. Mais nous avons prévu que l'immeuble à côté soit adapté pour recevoir le public et donc pouvant s'adapter à un utilisateur d'école. L'utilisateur d'école a été un grand mouvement depuis 2 ans et donc nous avons prévu que ça puisse être loué par ce type d'activité. Justement, parlons d'école, vous avez un ensemble de 8000 m² en deux immeubles qui est vraiment, quand vous sortez de la gare de Montpellier Sud, vous tombez sur notre ensemble qui est en cours de construction et qui ne sera livré qu'au mois de novembre de cette année. Je pense, et encore à croiser les doigts, qu'un des immeubles est en cours de négociation en totalité et que nous avons déjà un intérêt portant sur le second immeuble. Donc, ça vient contredire ce que je vous ai dit sur les grandes demandes, en quelque sorte, sauf qu'elle est également le reflet d'un marché montpelliérain qui est proche de 3% de vide locatif. Et donc, il va avoir une certaine pénurie d'immeubles répondant aux besoins, notamment une des locataires là est une école et donc ne peut pas s'installer dans n'importe quel immeuble. Il faut que les immeubles soient prévus pour cela. Donc, également, photovoltaïque sur des deux immeubles et des labels partout. Je crois que c'est...
Touché à rien. donc ça, c'était le tout ce qui était pipeline et croissance embarquée. Le côté opportuniste, vous l'avez senti au fil de notre propos. On manifeste aujourd'hui une certaine prudence sur les VFA en blanc. On en a fait beaucoup, donc on sait de quoi on parle. Et donc, on préfère aller chercher des achats opportunistes en ce qui concerne des bureaux. Et quand ces achats opportunistes peuvent porter sur des bureaux qui sont loués, on n'hésite pas. À l'inverse, et Arline vient de vous le démontrer, quand on est sur du parc d'activité, on va vers de la VFA en blanc parce qu'on considère qu'on est en train de mettre la main sur du foncier qui a de la valeur. Et Dieu sait si en date d'aujourd'hui, un certain nombre de mesures sont mises en place pour créer une rareté en ce qui concerne le foncier qui peut être appréhendé par les professions immobilières et notamment par les promoteurs. Donc, vous voyez cette inflexion, en fait, dans le petit graphe de gauche, où, en nombre d'opérations, vous avez en bleu marine les opérations qui étaient de la VFA bureau blanc, et leur évolution dans le temps par rapport à du parc d'activité. On aurait même pu rajouter du VFA parc d'activité blanc. INEA a considéré au cours des dernières années qu'il était essentiel de rester en contact avec le marché. On est resté en permanence actif. Par contre, ce qu'on a fait, c'est qu'on a ralenti notre rythme de production. Et c'est pour ça, si on assemble tout ce qu'on vient de vous dire, qu'on a senti un moment au niveau du rythme de production qu'on n'allait pas forcément avoir un rythme de production suffisamment important pour à la fois créer la valeur qu'on avait réussi à créer lors de l'augmentation de capital précédente et puis lever les fonds d'une manière qui soit en quelque sorte favorable par rapport à nos actionnaires en date d'aujourd'hui. Encore une fois, on est attaché à ce que la création de valeur qui nous ont permis de contribuer à créer perdure et s'améliore. De ce point de vue-là, On a, comme vous le soulignez tout à l'heure, Karine, une capacité d'arbitrage qui reste intacte. On est des gens qui avons arbitré au fil du temps. Les 5 dernières années, vous voyez, ça fait un peu plus de 10 actifs et un peu moins de 50 millions. Donc, c'est à peu près 10 millions d'arbitrages par an. Et encore une fois, ça s'est porté sur, compte tenu de la qualité de nos actifs et de leur taille, qui assure une liquidité certaine, sur des contreparties qui sont très diverses. Donc, comme vous le soulignez tout à l'heure, Karine, si on a un petit peu moins de SCPI en face de nous, on a d'autres types d'investisseurs qui peuvent parfaitement être des acheteurs du patrimoine d'Inéa qui serait arbitré. La meilleure illustration, c'est du concret. C'est ce qu'on est en train de boucler en début d'année. C'est très emblématique pour nous parce que c'est l'un des actifs les plus anciens qu'on possède. On avait misé à Marseille sur les baronnies. Je me rappelle qu'on attendait une rocade, qu'on a attendue durant des années d'ailleurs. Cette rocade s'est construite. Les baronnies aujourd'hui fonctionnent bien. Et là, on est en train de réaliser une vente à utilisateurs et on va globalement arriver à faire ou à réaliser une plus-value de l'ordre de 20% par rapport à la valeur d'expertise de cet actif au 31 décembre 2023. C'est ça qu'on veut faire. Il ne faut pas se presser dans les arbitrages. Arbitrer sans, en quelque sorte, battre la valeur d'expertise, ça n'a pas de sens pour nous parce que ce n'est pas créateur de valeur additionnelle. Au final, de manière assez simple, on proposera à notre Assemblée Générale de maintenir le niveau de notre dividende à 2,70 €. Ça acte le fait qu'on considère que l'exercice 2023 était un exercice solide et que les perspectives de la société sont bonnes. On est parfaitement conscient que ça reflète un rendement attractif, puisqu'il est de plus de 7% au regard du cours de clôture. Le cours à date d'aujourd'hui est plus bas que le cours de clôture, donc le rendement sera supérieur. On soulignera simplement qu'on est attaché à cette politique de dividende parce que on a, depuis notre création, toujours eu une politique de dividende qui était une politique en croissance ou stable. Et en date d'aujourd'hui, malgré les aléas des crises diverses qu'on est en train de traverser, Covid, crise de l'énergie, hausse des taux, vous remarquerez qu'on a une évolution du dividende qui est extrêmement fiable, sur laquelle nos actionnaires peuvent compter, et qui se différencie d'évolution du secteur qui est plus, on va dire, lié aux crises qu'il a traversées. Voilà. Donc un dividende qui souligne la constance de notre politique de distribution et la confiance que nous avons dans l'avenir d'Inéa. On en a terminé. On vous remercie de votre côté très calme et très attentif. On est prêt à répondre à vos questions. Voilà. Merci.
Bonjour, Stéphane Afonso, Invest Securities. Merci pour cette présentation. J'ai quelques questions. La première sur le risque locatif qu'il pourrait y avoir en 2024. Est-ce qu'il y a des enjeux locatifs particuliers en termes de départ et dans cette optique, quel taux d'occupation visez-vous en 2024 sur le pipeline de projets, ce que je comprends, c'est qu'aujourd'hui, on a un rendement cible de 6%. Donc, si on compare ça au taux de cap à 6,10, ça laisse quand même peu de place pour la création de valeur.
Oui.
Qu'est-ce que vous visez comme taux de rendement cible pour vos projets post-2025 Déjà, voilà, c'est une question.
Deux questions.
Sur le vide locatif, je crois qu'on connaît déjà les possibilités de vide locatif. C'est la vie normale d'un portefeuille. Hein. Si vous pensez que les baux sont de 24 ans, sont une longue fleuve tranquille, tous les ans, vous allez avoir des sociétés qui vont quitter les lieux, revenir. On vous a donné tout à l'heure le taux de renouvellement à la fois dans nos immeubles et puis le remplacement. Donc je pense qu'il faut vivre avec. On n'a pas de particulièrement gros départ prévu l'année prochaine, hein, de cette année, pardon.
Oui, voilà. Donc, on n'a pas d'événements locatifs majeurs en ce qui concerne les départs. Comme Arline l'a souligné, on a des taux de renouvellement, on va dire, entre les départs et puis les locations qui suivent ces départs qui dépassent les 50%. Donc on n'a pas de soucis, on va dire, prévisibles par rapport à l'année qui vient. Et je pense que même si on avait des départs non prévus, on a cette qualité d'actifs neufs qui attire le marché. Et comme on essayait de vous le dire tout à l'heure, ça capte quasiment 50% de la demande. Donc à partir du moment où vous avez une production d'immeubles neufs qui tend à se réduire, si vous êtes en train, vous, de présenter des produits neufs, il capte forcément une grosse partie des volumes commercialisés. Votre deuxième question, elle est très honnêtement beaucoup plus difficile. je pense que on rentre dans un environnement dans lequel on a tous le sentiment que les taux d'intérêt vont baisser. La grande question, c'est avec quel timing. C'est ça qui devra être pris en compte. Quand on dit qu'on veut être pragmatique et agile, on dit qu'on veut en fait répondre à cette question qui est la vôtre, en fait, dans le temps. À partir du moment où on va pouvoir capter des immeubles qui, non seulement parce que je pense qu'il ne faut pas s'arrêter au rendement immédiat, parce que c'est aussi la capacité à créer de la valeur au travers de la prise de valeur de ces actifs qui va être très importante pour nous. Quand on a fait nos petits calculs de fin d'année pour cette présentation, on était surpris, en fait, de constater qu'on arrivait à des métriques. Alors, on les oublie, je trouve, un peu trop souvent, qui font qu'on a un patrimoine qui est valorisé à 2 500 € du mètre carré. Je le redis parce que c'est clé. C'est impossible aujourd'hui de construire un immeuble neuf avec ce niveau de prix. Donc, on pense qu'on a non seulement une création de valeur sur le portefeuille qui est le nôtre, qui soit une création additionnelle, mais on pense dans ce qu'on peut faire, doit arriver à capter des actifs qui non seulement alliront du rendement, mais aussi, parce que c'est clé pour nous, il ne faut pas que ça soit que de la rente, une capacité à créer de la valeur. À nous de le faire, mais je pense que ça va relever plus du cas par cas que d'une politique, on va dire, presque monolithique en disant on va se fixer ça et si on n'a pas ça, on ne bougera pas.
C'était juste une dernière question sur le rendement potentiel de 7,3%. Comment le réconcilier avec le 6-10 de taux d'expertise? C'est un moyen d'apprécier le potentiel de réversion qui est embarqué ou non dans le patrimoine?
Le 7,3%, c'est les loyers annualisés si tout notre portefeuille était loué à 100%, rapporté à la valeur d'acquisition des biens. Donc il n'y a pas une corrélation directe avec le 6-10 des experts qui est, lui, une VLM sur une valeur d'expertise, quoi.
C'est clair, merci.
Oui, bonjour, Lurie Olietti de Recherche. Deux petites questions, s'il vous plaît. Vous ne parlez plus beaucoup de la construction bois. Vous étiez très, très à cheval là-dessus à une époque. Et deuxième question, est-ce qu'on peut avoir une idée de la hausse des coûts à la construction? C'est quand même un problème.
Nous avons, je crois, 27 immeubles en structure bois, mais on n'a jamais dit que tout le patrimoine sera en structure bois. Je crois qu'on a été le premier investisseur institutionnel de prendre position sur ce matériel en 2010. Nos immeubles fonctionnent, se renouvellent, se relouent. Je pense que c'est attractif. Nous n'écarterons pas les possibilités d'en acheter, mais il faut que les promoteurs les produisent. Nous ne sommes pas promoteurs. Nous avons acheté, je crois que le dernier immeuble que nous avons acheté avec un peu de bois était Wood Park à Toulouse il y a 2 ans. C'est une question de production. Alors au niveau de la hausse des coûts de construction, je pense qu'ils ont fortement augmenté, je dirais presque 20% au cours des 2 dernières années. Vous le savez tous, je pense. Je pense qu'ils vont baisser. Parce que comme l'activité de promotion est à l'arrêt, et je pense qu'il risque donc d'avoir peut-être une baisse de provisionnement, mais je ne sais pas où il s'arrêtera. Est-ce qu'il restera à 10%? Je n'ai pas ça en tête. Mais ce que je sais, c'est qu'on ne peut pas reconstruire un immeuble pour 2 500 euros le mètre carré avec sa charge foncière comprise, compte tenu des normes de construction qui sont les nôtres aujourd'hui. Donc nos immeubles remplissent ces normes, ont bénéficié de taux de construction peut-être plus attractifs dans le temps, Et on ne peut que s'en réjouir. Mais les immeubles à construire ne vont pas être au même prix de construction.
On peut le dire différemment. Hein. Vous dites, j'ai un bien qui est neuf, je le loue à 200 euros du mètre carré. Vous considérez qu'il faut le capitaliser à 7%? Ou vous considérez qu'en le capitalisant à 6%, il sera porteur d'une plus-value à terme? Vous êtes agile, c'est ce qu'on va essayer de faire par rapport à ça. Et de facto, vous avez, quand vous faites les petites divisions que je viens de vous proposer, des prix de la construction qui vont se l'échelonner entre 2800 et 3500 euros du mètre carré.
On va peut-être prendre... Il y a une autre question, pardon.
Bonjour, merci beaucoup pour la présentation. Vincent Kopner de Groupe Peterken. J'avais deux petites questions.
Il n'y a pas de questions petites. Hein. J'en connais pas.
Super, parce qu'elles ne sont pas si petites que ça. Vous avez parlé des cessions de portefeuille, justement, pour être opportuniste dans les années à venir. Vous avez donné l'exemple d'une cession, notamment, qui est donc un de vos premiers biens. Est-ce qu'on peut en comprendre que, justement, dans votre stratégie de cession, c'est plus donc potentiellement des anciens biens et principalement bureaux que vous comptez alors vendre, ou aussi selon la demande opportunistique, et donc pas du tout touché au Flex Park, par exemple? Et alors, je vais peut-être déjà mettre la deuxième question. Lilat, il me semble qu'il est actuellement proche de 6%. Est-ce que vous pensez pouvoir faire passer l'entièreté de Lilat en 2024, ou contractuellement, vous pensez que ça va être un petit peu en dessous ou au-dessus?
Alors, allez vite. Enfin, oui aux deux questions. Voilà, c'est une petite réponse. Tous les efforts de l'équipe d'Arline, c'est effectivement, si on peut, sur des biens qu'on a acquis il y a de nombreuses années, les arbitrer avec succès, bien sûr, on va pas s'en passer. Sur, entre guillemets, les dernières acquisitions qui, pour nous, sont appelées à prendre de la valeur, pourquoi sacrifier, en quelque sorte, ces biens-là pour les arbitrer immédiatement? Donc, voilà, je vais dans votre sens. Pour répondre à la deuxième question... C'est ce qu'on était en train de dire tout à l'heure, c'est-à-dire que on va pas hésiter à faire de la VFA en blanc sur des parcs d'activité, et on poussera si on le peut sur cette partie-là de notre portefeuille. Maintenant, je crois qu'il faut prendre conscience que quand vous avez, je parle sous le contrôle d'Arline, mais des parcs que vous louez aux alentours de, on va dire, on va être large entre 90 et 130 euros, enfin on en a certains en région parisienne où on est au-dessus, vous avez un niveau de loyer qui vous permet beaucoup plus facilement de faire passer l'indexation de ces mêmes loyers que quand vous êtes en train d'être avec des niveaux de loyers qui sont aux alentours de 600 jusqu'à 1000 euros. Donc c'est ce qu'on a expérimenté au cours des deux dernières années, et particulièrement cette année. Je pense qu'on sera à même de continuer à le faire. On va combiner ça au fait que ces biens-là, encore une fois, comme ils sont neufs, ils attirent. Donc les locataires qui ne sont pas contents, ils peuvent toujours partir. Mais je crois que s'ils sont venus, ils ont pris en compte... En partie, cette hausse potentielle des loyers.
J'avais juste une question suivante. Merci pour la réponse.
Je t'en prie.
Sur les cessions. Donc, est-ce que vous avez une quantité en tête ou ça va être purement opportunistique, alors, selon la demande?
Je vais faire plaisir à Arline, purement c'est... opportunistique.
Oui, c'est aussi une question qui ressortait sur le webcast. On n'est pas en train d'annoncer un programme de cession, hein, ou un plan de cession. On dit juste que jusqu'ici, c'est vrai qu'on privilégiait l'objectif de taille. Donc on arbitrait de façon très opportuniste 1 à 2 actifs par an, quand la demande venait presque spontanément. Cet objectif de taille, on s'en est libéré, comme vous l'avez entendu. Donc ça nous permet peut-être de faire un peu plus, mais on n'a pas besoin de faire des arbitrages pour des questions de dette, de ratio ou de choses comme ça. Donc on va rester parfaitement opportuniste à ce niveau-là, mais peut-être avoir une oreille peut-être un peu plus attentive à ce qui s'offrira à nous, et se permettre de faire un peu plus de cessions que ce qu'on a fait historiquement. En tout cas, et c'est un point important aussi à souligner, on n'a jamais vendu à perte. C'est évidemment un objectif qu'on maintient. Oui, c'est plus important, parce qu'encore une fois, on n'a pas besoin.
Mais voilà, c'est une rotation d'actifs, c'est une agilité, c'est un côté très opportuniste. L'optimum pour nous, c'est de vendre un actif, on va dire... qu'on a en portefeuille depuis pas mal de temps, on réalise une belle plus-value et on arrive à réinvestir le tout. On sera obligé d'en distribuer une partie, et c'est normal à nos actionnaires, et c'est même juridiquement obligé avec le régime SIC. Et puis le solde, si on peut l'investir de manière intelligente, on y va, quoi. Non, si on est bon, hein, Arline. Non, ça va. Merci beaucoup. Bonne journée.